Bonjour à tous. Les députés britanniques refusent le calendrier accéléré proposé par Boris Johnson hier soir, après avoir soutenu dans un premier temps l'accord négocié par le Premier ministre britannique. C'est maintenant à Bruxelles de décider le report ou non du Brexit, une possibilité toujours rejetée par Boris Johnson. On l'entendra. C'est un accord qualifié d'historique par le président turc Erdogan. Après cet accord conclu hier avec Moscou qui met un terme à l'offensive militaire d'Ankara face aux Kurdes à la frontière syrienne, à suivre avec Éric Biegala. Pendant ce temps, le groupe État islamique en profite pour faire évader ses prisonniers détenus par les Kurdes, nous dira Christian Chesneau. Emmanuel Macron a promis de soutenir les agriculteurs hier depuis Mayotte, agriculteurs qui se sont mobilisés devant les préfectures pour dénoncer les accords de libre-échange. La Turquie ne reprendra pas son offensive contre les forces kurdes, c'est ce qu'a confirmé il y a quelques heures le ministère turc de la Défense. Une décision au terme de plus de 6 heures de discussion, la plupart du temps en tête-à-tête entre Vladimir Poutine, le président russe, et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui ont abouti sur un protocole d'accord sur le nord syrien. Un protocole qui exige en 6 jours le repli de toutes les forces kurdes loin de la zone frontalière. Et c'est exactement ce que souhaitait obtenir la Turquie en lançant son offensive il y a 2 semaines, Éric Biegala.
L'accord a été qualifié d'historique par Recep Tayyip Erdogan et on le comprend, s'il est appliqué dans les termes exacts dans lesquels il a été rédigé, il satisfera très exactement les buts de guerre de la Turquie en Syrie. À partir de ce mercredi midi, les forces syriennes et russes débuteront un déploiement sur toute la zone frontière turco-syrienne. Toujours au terme du protocole d'accord rendu public à Sotchi, ces forces russo-syriennes doivent veiller au repli de toutes les forces kurdes et de leur armement à 30 km en deçà de la zone frontière. Ce repli est censé être complet et achevé en 150 heures, soit un peu plus de 6 jours. Par ailleurs, les Kurdes sont censés évacuer également les villes de Manbij et Tal Rifat, qui sont déjà bien en deçà de la zone des 30 km. Quant à la Turquie et à ses supplétifs syriens, ils conserveront la bande de territoire syrien de 120 km qu'ils ont pris aux Kurdes ces 10 derniers jours. Reste à savoir si les Kurdes accepteront un tel repli de leurs forces, un repli qui s'apparenterait à une claire défaite militaire en rase campagne.
Éric Biegala, alors que les soldats américains quittent la région, les djihadistes du groupe État islamique mènent des opérations pour faire évader ces prisonniers détenus par les Kurdes, Christian Chesneau.
Depuis la perte de leur dernier bastion à Baghouz, à la frontière syro-irakienne au printemps dernier, les djihadistes sont entrés en clandestinité. Ils se cachent dans le désert ou les villages de l'Euphrate, prêts à ressurgir dans une stratégie mûrement réfléchie, estime Wassim Nasr, journaliste de France 24, spécialiste de Daesh.
On ne peut pas dire qu'ils se réorganisent, il faut imaginer ce qu'ils sont déjà organisés. Donc déjà organisés en attendant le chaos qui s'installe, mais l'infrastructure, la logistique, etc., etc., tout est déjà en place.
Les djihadistes comptent bien profiter de la confusion actuelle qui règne dans l'Est syrien pour frapper tous leurs ennemis, poursuit Wassim Nasr.
Ce retour à la surface se manifeste par une accentuation des opérations, que ce soit au nord de l'Euphrate, en termes d'attentats, assassinats, opérations ponctuelles, bombardements, etc., contre les forces, que ce soit du YPG ou forces démocratiques syriennes, ou même la base américaine de Shadadi qu'ils ont bombardé dernièrement, ou des opérations beaucoup plus élaborées au sud de l'Euphrate, donc contre l'armée syrienne.
Dans cette stratégie de harcèlement, l'un des objectifs des hommes de Daesh vise à faire évader leurs partisans prisonniers des Kurdes, comme l'a exhorté le mois dernier Abou Bakr el-Baghdadi, leur chef toujours en fuite.
Christian Chesneau. La saga du Brexit continue au Royaume-Uni. Une fois de plus, la situation est bloquée. Il n'y aura sans doute pas de sortie de l'Union européenne le 31 octobre prochain, après 2 votes à la Chambre des communes hier. L'un en faveur de l'accord négocié par Boris Johnson, mais l'autre rejetant le calendrier pour l'examiner via une procédure accélérée d'ici une semaine. Alors le Premier ministre britannique a annoncé la suspension des discussions.
Il va maintenant y avoir plus d'incertitudes qu'avant. L'Union européenne doit décider comment elle va répondre à la demande du Parlement de reporter le Brexit. La première conséquence, c'est que le gouvernement doit agir de manière responsable, prendre des mesures pour accélérer les préparatifs d'une sortie sans accord le 31 octobre. Et puis je vais demander aux responsables européens quelles sont leurs intentions. Nous continuons de penser que nous devrions pas demander de report. Nous devrions quitter l'Union européenne le 31 octobre et c'est ce que je dirais aux responsables européens.
Boris Johnson, nous ne devrions pas repousser le Brexit d'une manière ou d'une autre. Nous sortirons de l'Union européenne avec cet accord puisque le Parlement vient de nous dire qu'il est favorable, a ajouté le Premier ministre britannique, soulignant que la balle était désormais dans le camp de Bruxelles. Depuis Bruxelles, justement, le président du Conseil européen, Donald Tusk, recommande aux dirigeants de l'Union européenne d'accepter un nouveau report du Brexit pour permettre aux députés britanniques d'examiner et de se prononcer sur le nouvel accord de retrait conclu par Boris Johnson. Je demande pardon à mes compatriotes, ce sont les mots du président chilien Sébastien Piñera qui a reconnu hier soir ne pas avoir anticipé l'explosion sociale due à l'augmentation du prix des transports publics. Il a proposé plusieurs mesures afin de mettre fin à 5 jours de troubles qui ont fait 15 morts. Un changement de ton radical adopté à l'issue d'une réunion avec plusieurs partis politiques. Alors qu'en Bolivie, c'est un appel à la grève générale qui a été lancé hier soir devant l'imminence de l'annonce officielle d'une victoire du chef de l'État sortant, Evo Morales, au premier tour de la présidentielle. Un revirement inexpliqué et très critiqué par la communauté internationale qui a provoqué de nombreux incidents, notamment dans la capitale La Paz. Emmanuel Macron arrive ce matin à La Réunion. Le chef de l'État sera accueilli par un appel à la grève générale dans l'île qui a été secouée par la crise des gilets jaunes lancée il y a 1 an. Hier, en métropole, les agriculteurs se sont rassemblés devant presque toutes les préfectures pour dénoncer notamment les conséquences des traités de libre-échange et contre l'agri-bashing, le dénigrement dont ils sont victimes selon la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Depuis Mayotte, Emmanuel Macron leur a répondu.
Nos agriculteurs, je sais l'état de souffrance économique et parfois morale dans lequel ils sont plongés. Trop d'entre eux n'arrivent pas à vivre grâce à leur travail. Et surtout, notre pays s'est emparé d'un drôle d'état d'esprit qui a consisté à pointer du doigt, voire à stigmatiser nos agriculteurs en disant que c'était en quelque sorte les ennemis du bien-être animal ou les ennemis de la bonne alimentation. Moi, j'invite chacun à garder du calme. Nous avons l'une des agricultures les plus exigeantes sur le plan des normes sanitaires, sur le plan de la réduction des pesticides, sur le plan du respect de toutes les normes au monde. C'est une réalité, l'une des plus exigeantes, si ce n'est la plus exigeante. Nous avons une agriculture dont on doit être fier. Je veux dire à nos agriculteurs, je suis derrière eux, parce que nous sommes un grand pays d'agriculture, et je veux que nous continuions de l'être.
Et depuis Mayotte, le chef de l'État a ajouté « La France, c'est la sécurité ». Emmanuel Macron a promis à Lille des réponses extrêmement concrètes face aux difficultés de l'archipel, notamment l'immigration clandestine et le développement économique. Patrick Balkany est apparu fatigué hier à l'audience sur sa remise en liberté. Il s'agit de sa première apparition publique depuis sa condamnation à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale dans le premier volet de son procès. Le maire de Levallois-Perret devra attendre lundi pour connaître la décision de la cour d'appel sur son sort. Mais quelle que soit la décision de la cour, elle ne lui permettra pas de sortir de prison. Explication de Florence Turm.
Cette demande de mise en liberté se rapporte au premier mandat de dépôt délivré à l'audience du 13 septembre dernier, conformément aux réquisitions du parquet national financier. Patrick Balkany avait immédiatement fait appel du jugement qui le condamnait à 4 ans de prison ferme. Les dates du prochain procès sont d'ailleurs déjà connues. Il aura lieu du 11 au 18 décembre, un délai très court qui tient compte précisément du fait qu'il soit placé en détention. Vendredi dernier, en jugeant le second volet du procès, le tribunal a prononcé 7 ans de prison ferme et délivré un autre mandat de dépôt. Patrick Balkany n'était pas présent à cette audience, mais ses avocats ont aussitôt fait appel de cette décision. Ils souhaitaient que les deux demandes puissent être examinées en même temps, ce qui n'a pas été le cas, le dossier n'étant pas encore parvenu à la cour d'appel. Autrement dit, Patrick Balkany restera en détention, quand bien même sa première demande serait acceptée lundi prochain. Au président qui lui demandait s'il souhaitait revenir pour entendre la décision, il a d'ailleurs répondu non, en expliquant qu'il était à la fois souffrant, fatigué et pas sûr du tout de se représenter aux prochaines élections. Il est encore trop tôt pour dire si le calendrier judiciaire à venir le lui permettra. Mais dans tous les cas, a déclaré le maire de Levallois, il faut bien que je prépare ma succession.
Florence Turm, l'Assemblée nationale a largement approuvé hier le premier volet du projet de budget 2020 avant de s'atteler au financement de la sécurité sociale. La ministre de la Santé promet de prochaines annonces sur l'hôpital, qualifié de trésor national sur fond d'inquiétude jusque dans les rangs de la majorité. Le temps, 6 départements en alerte orange pour risque d'orage et d'inondation ce matin sur une zone qui s'étend des Pyrénées-Orientales au Gard en passant par l'Aveyron. La pluie devrait largement dominer la moitié ouest du pays, du brouillard de la Bourgogne au Grand Est. Ce matin, les températures moyennes sont comprises entre 11 et 27 degrés avec 11 degrés à Amiens, 13 à Strasbourg et sur la région parisienne, 14 à Bordeaux, 18 à Marseille et jusqu'à 27 degrés maximum à Ajaccio.